minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Bonjour.
Salut. À toutes et à tous.
Vous êtes bien sur les infos choisies de Radio Galère.
Et c'est parti pour une demi-heure d'infos choisies.
Bienvenue.
Allô? Allô? Tu m'entends là?
Allô?
Attends, c'est toi ou c'est moi? Qui a pas de réseau? Reçois-tu nos questions texto depuis l'incendie du nœud de raccordement d'abonnés à Cray hier? Dis-moi, algorithme, quand seras-tu capable d'être imprévisible? Quand est-ce que tu t'autoriseras enfin à répondre n'importe quoi à nos requêtes? Que verrait-on si toutes les voix, textes, photos et vidéos qui transitent autour de nous devenaient visibles? Mes 5 Gwyn préférés se sont transformés en 5G. Comment leur dire? Merde, c'est quand la dernière fois que j'ai appelé ma grand-mère? Quand tu raccroches, t'es plus frustré de pas avoir touché l'autre, même du regard, ou plutôt d'avoir encore oublié la moitié de ce que tu voulais raconter? Est-ce qu'on peut encore trouver des moyens de bloquer cette colonisation de l'espace qui reste entre nous et la Lune? Eh, ça y est? T'as désactivé la fonction de surveillance sur WhatsApp qui te rendait mal et où tu pouvais toujours savoir quand, qui, à quelle heure avait lu ou non tes messages? À quand des rencontres de chair pour des antennes en feu? J'ai le droit à combien de caractères pour dire tout ce que je pense? We go chez toi ou bien we go chez moi? Quand on vit des relations à distance, est-ce qu'on passe juste plus de temps à fantasmer la relation qu'à la vivre? Depuis combien d'années les voix voyagent-elles dans l'air par ondes radio? T'as le même numéro depuis toujours? Fais-tu partie des 4000 à 6000 abonnés d'Internet qui sont impactés? Télétravailler, télécommuniquer, télépathiser. Ouais, ouais. À quand télévoyager? Télé s'aimer, télé caresser le chat, télé ton destin et tu peux pas y échapper. Coucou Laurine, te balance des questions comme ça, mais te sens pas obligée de les dire toutes, hein? Allô? Allô, ça coupe. Je rentre dans le tunnel là. Est-ce que t'as autant d'amis qui vivent à plus de 500 km que d'amis qui vivent près de toi maintenant que t'as déménagé 40 fois? La télécommunication par pigeon voyageur, ça compte? Tu me files ton 06? Appel à tous les moutons. Appel à tous les moutons. Est-ce que toi aussi, ton papy t'envoie régulièrement des textos avec zéro mot dedans? Pourquoi sur notre répondeur, on n'arrive jamais bien à imiter la voix de la meuf qui dit... Vous êtes bien sur le « Veuillez laisser un message après le bip sonore ». Du coup, on a toujours l'air sorti du fond du couloir, du cheveu sur la soupe, quand on dit son prénom, genre « Germaine » au milieu de ses mots à elle. Mais qui a encore laissé son téléphone allumé au dernier rang, au fond, près du radiateur? Jeter ma télé par la fenêtre, c'est aussi de la télécommunication ou non? Est-ce qu'à force de communiquer à travers des images de plus en plus lourdes, on va finir par ne plus voir que des constellations de satellites quand on lèvera la tête la nuit? Pourquoi faire le plan de rameuter toutes ses copines pour vivre au même endroit? Ça marche jamais. PS. E. FS. Écoute ton répondeur.
êtes toujours à l'écoute des infos choisies sur Radio Galère, comme tous les vendredis de 12h30 à 13h. Et on fait un gros big up à la Drôme qu'on avait en direct au téléphone et qu'on a même en studio. Et on va continuer ces informations avec quelque chose d'un peu moins léger. On va parler du centre de rétention administrative de Marseille, du Canet, où les conditions de rétention sont désastreuses. On rappelle vite fait qu'un centre de rétention administrative, c'est une prison pour les personnes étrangères en instance d'expulsion. Et bien que les frontières extérieures de l'Europe soient fermées, le centre de rétention ne désemplit pas. Chaque semaine, de nouvelles personnes y sont retenues. Les cellules sont pleines et les peines rallongées. L'ensemble des témoignages depuis l'intérieur déplore les conditions de vie au sein de cette prison. La cantine propose des repas tellement mauvais que certains ne s'alimentent plus assez. L'état de santé générale des personnes retenues est mauvais, certains attendent une opération, d'autres souffrent d'asthme ou encore de maladies de la peau et demandent à être consultés, mais la seule réponse est du Doliprane. L'hygiène générale est préoccupante, il fait froid, certaines qui n'ont pas de contact à l'extérieur à Marseille manquent d'habits de rechange. Et comme si ça ne suffisait pas, une invasion de punaises de lit semble se développer dans différentes zones du centre de rétention. En plus, avec peu de place et jusqu'à 5 personnes par chambre, aucun geste barrière n'est possible. Et on a été informé d'un cas de Covid cette semaine. Depuis, les parloirs sont annulés. Les prisonnières et prisonniers demandent une fermeture immédiate du centre de rétention qui n'a pas lieu d'exister. Et voici 3 de leurs témoignages.
Témoignage de J. On mange pas bien, on dort pas bien, on n'a pas le droit de voir le médecin. Déjà, moi, j'ai 2 fractures de la mâchoire. J'ai mon médecin et j'ai pas le droit. J'ai la douleur, là. Il me donne de l'éludril, le bain de bouche. Est-ce normal? Ils font rien. Ils font rien pour m'aider, rien du tout. Ils me donnent le bain de bouche. Le bain de bouche, c'est pas pour une fracture de la mâchoire. Quand je mange, je galère. Vraiment, je galère. Vous savez ce que c'est une fracture de la mâchoire? Vraiment, je galère. Et j'ai demandé des habits pour me changer. J'ai rien pu changer, j'ai pas d'habits. Ça fait 15 jours. Est-ce que c'est normal? Ils pourraient me prêter des habits. Là, on attend, on demande tous les jours et il n'y a pas de réponse.
Témoignage de haine. C'est vraiment la catastrophe. Une situation catastrophique, c'est la prison. C'est une petite prison. C'est ça que je vois, moi. Ils traitent les gens comme des merdes. Ils t'appellent pour manger à 14h. Ils mangent, eux, puis après, c'est nous. Ils s'en foutent. Après, de temps en temps, le matin, ils t'appellent pas. C'est des fous, c'est vraiment des fous. Franchement, j'aimerais bien que vous fermiez ce centre. Moi, j'ai des médicaments, j'ai un traitement que je prends et j'ai réclamé. Ils m'ont dit non, il faut l'ordonnance de dehors. J'ai ramené l'ordonnance de dehors et ils m'ont dit non, monsieur. Il faut que vous sortiez à l'hôpital. Alors j'ai dit, faites-moi sortir à l'hôpital. Ils m'ont dit non, c'est interdit. Donc je suis resté comme ça et je prends pas de traitement. Et j'ai trop mal aux jambes. J'ai demandé à force, ils m'ont donné du Doliprane. Carrément. Imaginez si vous partez en Tunisie ou en Algérie, vous n'avez pas votre passeport et on vous met 3 mois de prison. Est-ce que c'est bien? C'est illégal. L'égalité, la fraternité, la liberté, je la vois pas, moi. Je vois rien de ça. Je vois pas la justice. J'ai grandi ici en France. Je revenais voir mon daron parce que mon daron, il fait de la dialyse 3 fois par semaine. Et j'ai ramené à manger. Et c'est là qu'ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit que j'avais une OQTF de Paris, une obligation de quitter le territoire français. J'ai pas bien compris l'OQTF. Qu'est-ce que je fais pendant 2 ans? Qu'est-ce que je fais? J'ai rien fait. Je mange dans la rue et je me fais arrêter. Ils m'ont donné 4 heures et ils m'ont fait signer des papiers. J'ai dit « Ok, c'est rien, ça ». Et en fait, après, c'est une obligation de quitter le territoire pendant 2 ans.
Témoignage de cas. Je veux pas rester. Je veux partir. J'ai 2 billets de train. J'ai pas envie de rester ici. C'est clair et net. Je voudrais retourner en Espagne. J'attends un enfant. Ma femme, dans 1 mois, elle accouche. Eux, ils veulent me renvoyer direct en Tunisie. En plus, j'ai rien fait. Voilà. En plus, j'ai de l'argent sur le compte et je peux même pas le retirer. Je suis venue avec un billet et j'ai un billet retour. Je suis sortie du train et j'ai enlevé le masque et ils m'ont contrôlée. Je venais voir mon frère, il est malade. Je suis malade, j'ai une maladie des os, des tendons. Franchement, ça fait 20 jours que je suis là et je n'ai ni mes piqûres, ni certains médicaments qui me manquent. J'arrête pas de les réclamer tout le temps. L'intervenant, il dit tout le temps « demain, demain, demain ». et il n'y a rien du tout. Je leur ai dit « relâchez-moi, que j'aille me faire soigner dehors ». Je leur ai montré les papiers et tout ça, et il n'y a pas moyen. En tout, on est 60 personnes ici, on s'emmerde. On est comme des animaux, on monte, on mange, on descend, on monte, on mange. Et en plus, la bouffe, elle est dégueulasse, c'est immangeable. La dernière fois, mon collègue, il se tapait la tête contre le mur, ils lui ont mis le masque, ils lui ont mis les menottes, ils l'ont arraché, il a pris une crise parce qu'il est asthmatique. Une heure en train de pleurer, ça rase pour qu'il appelle les pompiers. On est en France quand même. Il y a plein de trucs, ça va pas ici. On devrait le fermer, le centre. C'est une honte pour la France.
Voilà, donc c'était trois témoignages de ces derniers jours du centre de rétention du Canet à Marseille. Ben, gros soutien, solidarité à toutes les personnes qui sont privées de liberté, que ce soit en prison, en Baumettes, en centre de rétention au Canet, en hôpital psychiatrique ou ailleurs. Et puis à toutes celles et ceux qui sont au fin fond de leur lit d'hôpital ou en maison de retraite. Gros big up à vous, les copains, copines. Merci aux copines qui nous ont fait passer les témoignages et on restera proche de ces infos-là aussi dans les prochaines semaines.
Pneumatique.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors, papa a fait du feu. Ça veut dire... Non, d'abord, ça veut dire de ne pas faire du feu. Et lui, il l'a fait, le feu. Il ne m'a pas écouté. Après... Les policiers sont venus et maman, elle a dit « Oh là là !» Et après, quand ils étaient sur les escaliers, moi, j'ai aussi monté comme eux. Et après, il a dit « Tu ne fais pas un garçon ?» Et j'ai répondu « Coin, coin. »
C'est le policier qui t'a demandé la question ?
Oui. « T'es une fille ou pas ?» Ou « T'es pas une fille ?» Fille, et moi j'ai répondu coin, coin.
Pourquoi est-ce qu'il t'a posé cette question ?
Je sais pas, parce que t'avais une robe de thermomètre.
De thermomètre ? Comment ça, une robe de thermomètre ?
Pas de thermomètre.
Ça veut dire quoi, thermomètre ?
Le thermomètre, c'est-à-dire que c'est une robe normale. Brillante et scintillante.
Ah.
Brillante et scintillante. Brillante et scintillante.
Pourquoi tu crois que le policier t'a posé cette question ?
Parce qu'il a une robe.
Oui, mais pourquoi c'était important pour lui de savoir si c'était un garçon ou une fille ?
Parce qu'il voulait savoir. Voilà. Ah. Je voulais savoir, en plus il a eu une robe.
Et toi, pourquoi t'as répondu coin-coin alors ?
Parce que je voulais pas qu'il sache. Parce que j'étais un garçon et je voulais pas que je dise que j'étais un garçon. Regarde ma grande robe.
Oh.
C'est pas facile à marcher.
Et alors ?
Cette robe scintillante et brillante.
Et pourquoi tu voulais pas qu'il sache que t'étais un garçon ?
Parce qu'après il va rigoler. Ça manque. Et après, je suis très triste.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais qui sont considérées comme des trucs de filles ?
Oui. Il y a des pulls à Cassandre brillants. Je les prends et je les mets. Il y a des tutus à Cassandre et je les prends et je les mets. Il y a des collants et je les mets à Cassandre.
Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça, alors ?
Et même, je mets sa culotte à Cassandre.
Oh, ben dis donc. Et pourquoi tu fais ça, alors ?
Et dans le déguisement de Blanche-Neige, je l'avais mis avec une culotte à Cassandre et dedans, j'ai fait caca.
Oh, ben dis donc. Ça, c'est une histoire, on va peut-être pas la raconter à la radio, hein.
Ah, pourquoi ?
Tu t'as fait caca dans le déguisement de Blanche-Neige ? T'as fait exprès parce que c'était Blanche-Neige ?
Non, c'est pas fait exprès.
D'accord.
Non, mais c'était pas Blanche-Neige. On la voyait pas, Lance Ness était juste un mini déguisement. Il était à cette taille presque.
Et toi, t'aimerais être une fille ou juste t'aimes pas être un garçon?
J'aime pas être un garçon et j'adore les filles. Parce que les filles, ça a des cheveux longs. Et en plus, ça a des robes que j'adore.
Mais regarde.
Voilà.
Regarde.
C'est vrai.
Mais pas toutes les filles ont des cheveux longs ni des robes, regarde-moi.
Mais pourquoi vous n'avez pas acheté des robes? C'est ce qui me fait le plus plaisir.
Est-ce que des fois tu portes des robes quand tu vas à l'école ou quand tu vas dans la rue?
Non. Mais j'ai déjà pris un collant de fille dans la rue.
Mais c'était sous tes habits, ça se voit pas, c'est ça?
Oui, c'était gros pantalon.
Et pourquoi tu porterais pas des robes dans la rue?
Parce que j'ai peur que la police m'arrête.
Ah bon? Tu crois que la police, elle arrête les gens pour ça?
Oui.
Pourquoi?
Parce que... c'est comme ça.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4. On est toujours aux infos choisies et on va maintenant présenter un ouvrage.
Un ouvrage qui s'appelle La race tue deux fois, qui a été édité et qui est sorti publiquement il y a quelques jours. C'est un bouquin de Rachida Brahim qui est docteur en sociologie. Ce bouquin, on l'attendait avec impatience. En fait, c'est une réécriture de sa thèse. Pour nous, on a voulu le présenter parce que c'est un outil précieux pour nous, les personnes qui subissent le racisme, et aussi pour les personnes qui doivent s'éduquer à ces sujets-là. C'est un lien entre la place des émotions, l'expérience subjective et un travail de recherche précis. C'est un pied de nez à l'objectivité. C'est un doigt d'honneur aux violences policières et institutionnelles. C'est une révérence à l'histoire et à la mémoire. Et on va vous lire des extraits de son introduction.
Sur les parois de mon cervelet subsiste le tracé d'une langue que je ne sais ni lire ni écrire. Je succombe régulièrement à la douleur que provoque en moi cette seule phrase. Je succombe à cette étrange indigence qui vous conduit à ne rien savoir de vos propres défunts. Je succombe à la présence d'une violence et d'un amour que je n'ai pas connu, mais dont le souvenir me hante.
Le racisme post-colonial est un long désastre qui s'éterre sa source. Il puise sa force dans l'anéantissement de notre historicité. Il est un vide dans lequel nous devons néanmoins croître sans assise et sans certitude, mais avec ces 1000 fragments de post-mémoire qui tailladent quotidiennement nos esprits et l'aisance avec laquelle nous pourrions être au monde.
Ce livre est le fruit d'une post-mémoire aphone qui tente, malgré tout, de s'énoncer. J'aimerais dire ici la violence que le racisme post-colonial fait à nos corps et à notre raison. J'aimerais décrire le mécanisme qui préside à cette violence, sans rien cacher des troubles que ce savoir me cause et des leçons que j'en tire. Non par goût du pathos, mais parce que la neutralité, généralement feinte par les chercheurs en sciences sociales, est en réalité une violence épistémique qui participe à ce long désastre. Elle entrave l'intelligence de tout un chacun en l'obligeant à privilégier les analyses en termes de classe sociale, encore perçues comme les seules garantes de l'objectivité scientifique.
Ce racisme postcolonial s'accompagne d'une douleur indicible qui nous fait côtoyer la honte et l'insanité. Elle est indicible non pas parce que nous manquons de mots, mais parce que les réceptacles font encore défaut. Les paroles qui cherchent à énoncer et donc à transmettre cette douleur sont systématiquement réduites à l'état de bruit. Et étant renvoyées au registre des émotions déplacées, elles sont minimisées ou criminalisées alors qu'elles sont factuellement justes, sémantiquement précises et socialement vitales. Cette impossibilité à dire le racisme postcolonial est aussi indécente qu'immorale. Elle condamne les personnes concernées à exister dans un espace qui confine à la folie, dans lequel d'autres peuvent leur expliquer qu'elles se trompent sur la violence qu'elles pensent subir, tout en les maintenant dans l'ignorance de leurs propres conditions. Reste après coup la dure honte d'avoir énoncé à voix haute ce qui doit être tu et la sensation de perdre la raison, puisque les éclats de nos vies ciselées de rupture ne peuvent jamais être rangés dans des canevas logiques.
Paradoxalement, cette douleur est sans doute notre meilleure chance. L'expérience de ce racisme postcolonial, parfaitement agencé, extrêmement feutré, repousse sans cesse les limites de notre entendement. Faisant l'expérience de ce racisme, nous faisons l'expérience de l'oreille absolue. Nous cherchons à discerner, par-delà le temps et les silences, le type d'humanité dont nous sommes les témoins. Une fois que la chose est entendue, une fois que plus aucun doute ne subsiste quant à la manière dont le monde social nous réduit à des catégories évoluant dans des relations plus ou moins médiocres, nous accédons à ce que nous avons de plus grand et de plus subtil. Nous accédons à notre âme. Elle présente l'indéniable avantage de n'être d'aucune race, d'aucune classe, d'aucun genre. Elle est l'endroit dans lequel, par-delà la douleur, nous venons puiser notre force et notre constance. Témoigner depuis son âme, c'est agir en conscience, de manière à ce que les mots, tant dévoyés de justice et de fraternité, l'emportent encore.
Plus la parole de nos âmes sera disqualifiée, plus nous redoublerons d'intelligence pour que puisse survivre cette part de nous-mêmes que la colonisation nous a confisquée et où se mêle le regard de nos femmes tatouées, la luxuriante misère de nos lignées, la réminiscence d'une terre saccagée, mais toujours féconde, et ce long et délicieux parfum d'insubordination. Dans la pièce qui se joue encore, en vertu de cette part sensible et de son potentiel subversif, nous conjurons le sort et nous enterrons nos morts. Nous conjurons le sort et nous enterrons nos morts. Nous tenons des listes d'hommes tombés sous les coups du racisme pour dire que nous refusons catégoriquement d'être violentés en raison de notre visage, de notre nom et de notre filiation. Nous dressons régulièrement ces listes parce que nous nous souvenons des grands-parents que nous n'avons pas connus et des petits-enfants que nous n'avons pas encore. Ce geste, quand bien même il n'aurait pas la matérialité d'un monument aux morts, révèle d'un acte patrimonial. L'élaboration de ces listes a été guidée par la volonté de laisser une trace et un témoignage sur l'époque au cours de laquelle elles ont été compilées. Plus qu'une compatibilité macabre, elles livrent des éléments sur l'état des rapports sociaux. Répéter régulièrement que des hommes meurent en raison de leurs stigmates, c'est dire la précarité de certaines vies, l'adversité d'une condition et les formes extrêmes que peut prendre l'exclusion.
De telles listes sont dressées depuis les années 70. Compilées par plusieurs générations de militants, elles sont enfouies dans les caves des archives associatives et présentent toutes le même format, à la fois sec et funeste. On y trouve la date du crime, le nom de la victime, suivie d'une ou deux phrases laconiques. Elles frappent par leur rudesse, leur longueur et leur nombre. Poser une liste conduit inexorablement à en trouver une autre quelques jours plus tard. Ces listes expriment l'idée d'une injustice. Elles dénoncent le racisme et l'impunité du racisme. Elles pointent du doigt les crimes, mais également la grande majorité des procès qui ont fini par des peines légères avec sursis ou des acquittements, quand ce n'est pas un non-lieu qui est venu clore l'affaire. Elles disent en substance que la racialisation, autrement dit, le fait de placer des personnes dans des catégories raciales afin d'asseoir un rapport de pouvoir et d'en tirer profit, cette action précise, à la fois nébuleuse et très sophistiquée, tue deux fois. La première violence se déroule dans un cadre interpersonnel et touche d'abord à l'intégrité physique de la personne. Elle s'incarne dans le coup porté à un individu en raison des préjugés que l'on entretient à son égard. La seconde violence a lieu à l'échelle institutionnelle et porte davantage un coup psychique. Elle est une conséquence du traitement pénal qui ignore la nature raciste des crimes jugés.
Alors que pour les personnes mobilisées, le caractère raciste des violences ne faisait aucun doute, pour les législateurs, l'idée même d'un mobile raciste a régulièrement été rejetée. J'ai voulu questionner ces deux vérités et les circonstances qui ont déterminé leur existence. Pour les personnes concernées par ces violences, quels sont les mécanismes qui conduisent certains à la mort et d'autres à une vie empreinte d'un si tenace sentiment d'injustice ? Du côté de l'État, à travers la voix des parlementaires, quels arguments ont été employés pour réfuter la prise en compte du mobile raciste et sur quelle rationalité s'est fondé ce sujet ?
La deuxième partie de l'ouvrage s'intéresse à l'approche particulariste qui caractérise la manière de gouverner les personnes racialisées. En dépit des différences de circonstances, toutes les violences ont été motivées par la nécessité de se défendre contre le danger que représentaient les Maghrébins et leurs descendants dans l'esprit de leurs auteurs. Cette idée d'un danger lié généralement à la présence de migrants africains est également visible au sein de la politique d'immigration française. Entre les années 60 et les années 2000, différentes mesures visant à freiner l'immigration africaine ont alimenté les préjugés raciaux à l'encontre de ces migrants et de leurs descendants.
La dernière partie de l'ouvrage montre que le particularisme qui caractérise la prise en charge des personnes racialisées s'arrête précisément au moment où elles demandent une justice qui prenne en compte la différence à laquelle elles ont été assignées. Alors qu'elles sont soumises à un droit particulier en matière d'immigration ou de logement, quand survient un crime, on estime au contraire qu'il est impossible d'instaurer un droit particulier pour juger ces violences, parce que le droit, selon un principe universaliste, doit être le même pour tous.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org. Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.